Radio Barque 3e, Marion Thibat, vous êtes la responsable de la culture et des éditions. Vous allez nous expliquer tout ça en détail. Du PNR, alias le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. Et je crois qu'il faut même en Méditerranée. Ne nous privons de rien, s'il vous plaît. Alors expliquez-nous d'abord ce que c'est, parce que le PNR... Les gens imaginent plus ou moins que c'est un truc, ça n'a rien de péjoratif, qui s'occupe de conservation de la nature, mais apparemment c'est beaucoup plus vaste que ça.
Déjà, il faut savoir qu'on habite dans un PNR.
Oui, tous les... c'est un grand territoire.
Voilà, c'est un grand territoire, et c'est vrai qu'on se rend compte que les habitants d'ici ne le savent pas forcément. Donc ce territoire, c'est 21 communes, c'est tout le littoral audois dont on parlait un instant. C'est aussi une partie des corbières maritimes, du massif de Fontfroide. Il y a évidemment le massif de la Clappe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de remettre un peu en perspective historique. Parce que les parcs, ça fait très longtemps qu'ils existent. Ça fait 1967, c'est De Gaulle en fait. C'est la grande époque de la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire, qui a créé ces structures qui sont des préfigurations de l'intercommunalité. Ce sont les premières intercommunalités en France. Mmh. Donc en fait, c'est très passionnant parce que les parcs ont une vocation d'innovation, d'expérimentation, d'être des laboratoires, ce qui a été le cas pour l'aménagement du territoire. Il faut rappeler quand même que De Gaulle, 67, c'est aussi la mission Racine ici sur le littoral audois.
Bien entendu, c'est
donc
à peu près la même époque.
C'est très important, c'est une époque vraiment où tout s'est joué. Et d'ailleurs, il y a des liens entre la mission Racine et le fait qu'il y ait un parc naturel régional ici, parce que la mission Racine a conçu l'aménagement du territoire en faisant des poches, on pourrait dire, de béton, mais en préservant absolument des territoires vierges tout autour.
Oui, on avait déjà une sorte de Scott à l'époque, finalement, dans l'esprit des gens.
Oui, mais c'est ce qui fait aussi que la qualité de la nature, elle a été fortement préservée ici. Mmh. Alors, bon, le parc naturel de la Narbonnaise a été créé en 2002.
Oui, celui de la Narbonnaise est plus récent. Si les PNR ont 50 ans en France, celui-ci est plus récent.
Il y en a une cinquantaine en France de parcs naturels régionaux. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir réglementaire dans les parcs. Il y a un devoir de conviction. Il faut réussir à convaincre les élus, convaincre les aménageurs qu'il y a urgence à préserver la nature. Nature, culture, on y vient. Puisque dans les missions des parcs, c'est dans la loi, il y a l'idée de valoriser, de préserver le patrimoine naturel, paysager et culturel d'un territoire considéré comme exceptionnel. Puisqu'il faut aussi rappeler que ce ne sont pas les élus qui décident de labelliser un parc naturel régional. Les élus demandent la labellisation. Mais c'est un organisme qui est totalement indépendant au niveau national, qui est composé de scientifiques de haut niveau et qui décide si, oui ou non, ce territoire mérite d'être préservé et d'être classé parc naturel régional. Après, c'est un projet
donc
de territoire.
Donc c'est un label de qualité d'une certaine
Absolument.
Façon.
Absolument. Et c'est aussi ce qui nous amène peut-être à cette politique culturelle, c'est que, dans le fond, ce que j'essaye de faire depuis 15 ans au parc naturel régional de la Narbonnaise, c'est la même chose que ce que le parc fait pour la nature, pour la biodiversité. C'est de valoriser la qualité culturelle, patrimoniale, artistique de ce territoire. Donc d'être très exigeant sur la qualité et aussi de favoriser la diversité, comme dans la biodiversité, la diversité de toutes les formes artistiques, ça peut être de l'écriture, de la photographie, de la peinture, du théâtre, avec des commandes de création. Et pour le patrimoine, c'est pareil, c'est-à-dire que toutes les approches m'intéressent. Ça peut être une approche historique, géographique, archéologique, ethnologique. Bon, moi, j'ai choisi pour le parc, parce que ça correspondait à ce territoire, de mettre l'accent vraiment sur le patrimoine ethnologique, ce qu'on appelle maintenant le patrimoine immatériel, puisque depuis 2006, l'UNESCO a considéré qu'il existait un patrimoine immatériel. Et donc, c'est ce qu'on appelle les usages, les savoir-faire, les représentations, tout ce qui est les chansons, la langue occitane.
Tout ce qui est passé par l'homme, finalement. En fait.
Tout ce qui est passé par l'homme. Et on pourrait même dire qu'il y a toujours dans le patrimoine une facette immatérielle. Si on prend la cathédrale de Narbonne, il y a les pierres, les vieilles pierres. Évidemment, il y a toute l'histoire de la construction, il y a ce monument. monuments absolument splendides, mais il y a aussi tout ce qui va avec la spiritualité, le sacré. Là, on est dans l'immatériel. Oui. Il y a toujours une dimension immatérielle dans le patrimoine. Et donc, pour le parc naturel régional, l'analyse, ça a été de dire, évidemment, ça ne sert à rien de faire ce que les autres font, c'est-à-dire de faire ce que les communes font, les communes s'occupent bien de leur patrimoine construit, ou de faire ce que le Grand Narbonne peut faire. Ce qui est intéressant, c'est d'être en complémentarité, et donc d'innover et de faire une politique qui valorise tout ce patrimoine, ce petit patrimoine, tous ces petits savoir-faire, on pourrait dire. Ça va de la batellerie sur le canal de la Robine, en passant par la charpenterie de marine, en passant par les techniques de la pêche, en passant par les salins. Tout ça, ça fait profondément partie de notre patrimoine, de l'identité de ce parc. Hein. Et donc, voilà, moi, je me situe sur ce terrain-là.
Oui, voilà. Donc, on va revenir sur quelques points concret, particulier, pour illustrer votre tâche. Alors, Marion Thibault, aujourd'hui, si je puis dire, d'ailleurs, vous êtes un peu de l'autre côté de la barrière, parce que pendant longtemps, vous avez fait vous-même de la radio.
Oui, oui. J'ai travaillé 16 ans à France Culture.
Voilà.
Alors, c'est toujours peur quand on dit France Culture. Hein. Mais en réalité, France Culture, c'était aussi un laboratoire. Et on est allé beaucoup en direct dans les régions. Moi, j'ai fait une émission qui s'appelle Le Pays d'ici pendant 15 ans, 16 ans, et qui donnait la parole à ceux qui ne l'avaient pas dans les régions. Et on était vraiment dans tous les coins de France. On avait des moyens à l'époque. C'était la radio de service public qui donnait des moyens pour réaliser ça. Ça coûtait quand même cher. Il n'y avait aucune émission à la télévision à l'époque existante en direct des régions. Donc, il faut quand même... Je pense qu'on a beaucoup d'images caricaturales sur France Culture. Je tenais quand même à défendre cette maison que j'ai beaucoup aimé et ce métier que j'ai aussi beaucoup aimé.
Et alors aujourd'hui, donc, à un moment, vous avez décidé de changer de vie, de travail, et vous avez saisi une occasion, à savoir la naissance de ce PNR. Qu'est-ce qui vous a attiré de cette vie parisienne à cette vie languedocienne?
Moi, j'ai fait partie du déménagement du territoire, on peut dire. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. C'est un métier fatigant, parce qu'on est toujours parti quand on travaille, quand on est journaliste culturel à la radio. J'étais vraiment partie une semaine par mois, au moins. Donc, et puis, on travaille le samedi, le dimanche, il n'y a pas d'heure, on s'investit énormément. Bon, et à 40 ans, c'est vrai qu'il y a eu une double opportunité, c'est-à-dire un changement de direction à France Culture, qui fait que, moi, je ne me suis pas entendue avec la nouvelle direction. Et puis, parce que j'ai pensé que cette nouvelle direction menaçait le métier que je pratiquais. Et puis, j'ai eu un enfant à ce moment-là. À 40 ans, j'ai eu un enfant, tardivement.
Donc, c'était une occasion...
On ne peut pas faire ce genre de métier.
D'introduire une rupture.
Voilà, et bien s'occuper d'un enfant. Donc, et puis, mon mari, depuis très très longtemps, voulait partir de Paris. Donc, ça a été l'occasion d'aller dans ce sens-là. Voilà.
Et alors, Marion Thibault, donc, il y a maintenant une quinzaine d'années, vous arrivez ici. Alors, à l'époque, le siège était à Narbonne. Maintenant, il est
à Montplaisir.
Maintenant, il est à Sigean, mais enfin, bon, c'est pas loin. Comment ça se passe? Essayez de vous souvenir et de nous faire découvrir votre découverte de ce poste et de cette région et de ce parc.
Alors moi, je dirais peut-être deux choses. C'est que, d'une part, j'ai fait exactement ce que j'avais fait pendant 16 ans à France Culture. Je suis allée sur le terrain, je suis allée rencontrer des gens, je suis allée découvrir tous ces paysages. Je me suis imprégnée, et ça a mis beaucoup de temps. Et d'autre part, je dirais que ce qui m'a attirée vraiment ici, outre les paysages, parce que ça, je pense que les paysages, c'est petit à petit qu'on découvre la richesse de ces paysages, puisque la richesse de la Narbonnaise, c'est une richesse qui est très invisible, en dehors évidemment des grands monuments comme Fontfroide, mais vraiment ce qui fait le charme de cette Narbonnaise, c'est toutes les traces qui sont laissées, qu'on ne voit pas bien dans les garrigues, et on s'aperçoit qu'il y a plein de métiers différents qui ont coexisté. C'est la différence entre le littoral, la pêche et les étangs, la lagune. C'est une culture totalement différente, et la viticulture. Là, on a déjà trois civilisations presque qui coexistent sans avoir tellement de relations entre elles. Donc tout ça, je ne peux pas dire que je l'ai perçu immédiatement. Mais ce qui m'a attirée, c'est le fait que... alors c'est un peu paradoxal, mais au niveau national, on ne fait que passer à Narbonne. On ne s'y arrête pas. Et en réalité, on a très peu d'images du territoire de Narbonne. Si vous pensez à Arles, vous dites Arles. Immédiatement, un Français a une image d'Arles.
Si vous dites... Il y avait l'Arlésienne de Daudet aussi.
Évidemment. Si vous dites Pays Basque, si vous dites Annecy, Il y a des images qui émergent. Alors, j'espère ne pas vous blesser, puisque vous êtes d'ici en disant ça, parce que moi, je trouve que c'est au contraire une grande qualité. C'est-à-dire qu'on peut venir ici en ayant l'impression qu'on va découvrir une région qui est totalement méconnue. Mais c'est une région qui est aussi belle que des régions qui sont plus réputées. Enfin, on parle de la Provence, on parle de la Camargue. C'est évident qu'entre la Camargue et la Narbonnaise, je choisis la Narbonnaise. Parce que c'est un territoire qui a une variété, c'est un territoire qui est en amphithéâtre, qui tient un peu dans une main comme ça. Où qu'on soit sur le territoire du parc, on voit tout le territoire du parc. D'un côté, on a un petit repère vraiment contemporain et moderne, c'est la cimenterie Lafarge, à Pont-la-Nouvelle. Oui. Et de l'autre côté, on a comme repère la cathédrale de Narbonne, qui très étonnamment se voit de partout, alors qu'on a l'impression, quand on est en ville, qu'elle n'est pas sur une petite hauteur, mais elle se voit de partout. Michel Santos, je vous vois froncer le sourcil.
Non, parce qu'à propos de Camargue, je pensais à notre petite Camargue narbonnaise, toute cette partie du territoire,
côté Mandirac,
qui est une pure merveille, en fait, qui me rappelle en fait, étrangement ces paysages de Camargue. Camargue, je connais un peu pour avoir.
Oui, mais la Camargue, c'est plat. La Camargue, on n'a pas ce point de vue sûr.
Oui, non, mais je veux dire que je parle de essentiellement de cette petite partie du territoire-là, qui est entre Mandirac, effectivement, et Gruissant, sur le côté droit, là, qui ressemble, effectivement, à ces rizières. Avec mais c'est vrai que c'est la seule image. Alors, c'est vrai que quand on est au Japon, j'en ai fait l'expérience.
Ça nous mène loin, ça.
Mais pour les images, il y a deux images françaises qui sont connues, en fait, des Japonais, entre autres. La Tour Eiffel, bien sûr, mais c'est Nîmes et Arles. Carcassonne. C'était Carcassonne, les arènes de Nîmes et Arles. Point. Et c'est que Narbonne, pendant très longtemps, la seule image qui était connue en fait, dans la France entière, c'était celle du Racing Club
Narbonne. Oui, c'était notre arène.
La raison d'insister effectivement cet aspect-là, parce qu'effectivement, elle est à construire cette image-là.
C'est ça qui est passionnant, à mon avis.
Et alors justement, Marion Thibat, donc vous arrivez avec un regard extérieur, et votre tâche, c'est donc de faire des publications.
C'est pas seulement faire des publications. Donc, en fait, je suis directrice de la culture au parc naturel et je m'occupe à la fois de valoriser ce patrimoine ethnologique à travers des recherches. Moi, je fais des commandes à des chercheurs qui vont vraiment faire un travail pendant un an et demi, qui n'est pas fait. Donc, qui vont faire ce travail d'enquête, quand c'est de l'ethnologie, auprès
des
habitants.
Donc, vous devez montrer des pistes, en quelque sorte.
Oui, c'est-à-dire que moi, je dois choisir des sujets, et des chercheurs, et des personnes compétentes. Donc, ça, c'est pour le patrimoine. Et puis, la deuxième partie, parce que moi, je ne veux pas du tout séparer le patrimoine des arts vivants. Je pense que c'est une erreur de faire ça, en tous les cas, quand on est un parc naturel régional, parce qu'on risquerait de se figer dans le passéisme. Et ça, je pense que ce n'est pas du tout la vocation des parcs. La vocation des parcs, c'est que ce sont des territoires de vie.
Ça, il faut le souligner, parce que ça ne coule pas de source.
Ah non, ça coule partout, mais ce ne sont pas des parcs nationaux. Ce ne sont pas des conservatoires, ce sont des parcs. Il faut accompagner les pratiques. Il faut faire en sorte que, au fur et à mesure, on améliore ces comportements. Et donc, je pense qu'il faut surtout pas être dans une vision du patrimoine. Le patrimoine, c'est l'héritage de nos pères, c'est la définition même du patrimoine. Mais nous devenons les pères ou les mères, et donc nous transmettons à nos enfants. Et les artistes réinventent le patrimoine. Quand on pense à Van Gogh ou à Picasso, avant d'être du patrimoine, ça a été des artistes vivants, qui ont innové dans leur temps. Et donc moi, je fais des commandes à des artistes vivants, parce que je pense qu'il faut vraiment renouveler le regard. Toute la question, c'est ça, c'est d'arriver à additionner une diversité de regard sur ce territoire du parc. Donc,
À propos de vivants, c'est combien d'habitants le PNR, justement? Ce sont des habitants.
Oui, ce sont
des
habitants.
Communes et des habitants.
Bien sûr.
Avec des économies qui fonctionnent.
Bien sûr. Alors, le centre de Narbonne, les centres des villes n'ont pas le droit de faire partie des parcs naturels régionaux. Mais il n'empêche que la ville de Narbonne en entier fait partie du parc naturel régional. Et très paradoxalement, Port-le-Cat ne fait pas partie du parc, parce qu'à l'époque, ça a été été jugée comme une espèce de verrue. Donc on voit bien le changement de vision sur ces questions-là, puisque maintenant, Port-le-Cadre vient d'être labellisé patrimoine du XXe siècle par le ministère de la Culture. Donc vous voyez, et c'était perçu il y a 15 ans, il y a seulement 15 ans, comme une verrue. Donc le cadre fait partie.
Donc la roue a tourné. Là,
ah oui, mais ça montre bien que le patrimoine n'est pas figé et qu'il est constamment en réinvention. Mais on le sait très bien d'ailleurs, puisque il y a 40 ans, quand on parlait du patrimoine, on parlait des châteaux et des abbayes. Mmh. Et après, tout a fait partie au fur et à mesure
du
patrimoine.
Le regard a beaucoup changé. Marion Thibat, pour conclure, parce qu'il va falloir conclure quand même, il y a un sujet, alors concret, c'est un parmi d'autres, mais très important, me semble-t-il, sur lequel vous avez travaillé, vous et tout le personnel du parc depuis quelque temps, c'est la Maison de la Clape avec la cartographie du littoral. Là, vous avez fait de l'histoire, enfin de la préhistoire même.
Ah oui, même on est remonté à bien au-delà, puisqu'on est remonté à moins de 10 000 ans. Donc ça fait 12 000 ans d'histoire.
D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller voir cette Maison de la Clape à Vinassant, depuis laquelle nous avons fait une émission en direct il n'y a pas très très longtemps, et nous avons découvert justement
cette maquette
qui est assez extraordinaire.
Spectaculaire. Oui, alors là, vraiment...
Expliquez-nous la genèse de ce projet.
Alors en fait, et puis il faut dire que c'est près de la Poste de Vinassant, comme ça les gens ne se perdront pas pour trouver la Maison de la Clape. Cette maison existait. Hein, puisqu'il y a une dame, c'est Magali David, qui est l'âme de la Clape. Depuis fort longtemps, elle existait.
Oui.
Il s'est trouvé que le Grand Narbonne, avec son programme touristique Odyssea, a voulu la remettre en valeur. Et donc, le Grand Narbonne a été voir la mairie de Vinassant et le Parc Naturel Régional et l'association de la Maison de la Clape, fondée par Magali David, en leur disant « Associons-nous et imaginons une nouvelle Maison de la Clape ». Et donc, le parc a apporté les contenus de cette Maison de la Clape. Hein. Et pour les contenus, on a fait appel en fait aux archéologues qui sont les plus compétents, avec lesquels j'avais publié un carnet du parc sur les ports antiques de Narbonne, donc à Corinne Sanchez et à son équipe, et en particulier à Julien Cavero, qui est un cartographe qui connaît très 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 bien ce territoire, alors qu'il travaille à Paris, à l'École normale supérieure de Paris. Et avec eux, on s'est posé la question de savoir ce qu'on savait exactement aujourd'hui de l'évolution de ce territoire depuis 12 000 ans.
Notamment les lagunes.
Ah oui, c'est fantastique, parce que c'est vrai que quand on vit aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il y a une époque...
Que la Clape était mer... une île, par exemple.
Non, mais que la mer n'existait absolument pas ici, que la mer, elle était à 3 km d'ici. On a du mal à imaginer que la Clape, en fait, elle n'a été une île. Mais il y a bien longtemps que la Clape n'est plus une île, ça fait 6000 ans avant Jésus-Christ que la Clape n'est plus une île. Donc tout ça, c'est une... Mais c'est formidable de voir cette maquette. Il faut imaginer cette maquette, c'est 4 mètres carrés, donc une maquette en blanc, en relief de tout le territoire du parc, et sont projetées de manière verticale, donc ça vient du plafond, des images, des cartes qui animent la maquette.
Et qui retracent l'évolution historique.
Mais alors on voit la mer arriver, se retirer, on voit le vent passer, on voit les oiseaux, on voit les poissons. C'est très très beau, c'est un bel objet. C'est un objet à la fois juste scientifiquement en l'état de nos connaissances, puisque, évidemment, hein, les archéologues, ils savent des choses aujourd'hui, mais au fur et à mesure de l'évolution de leur science, ils sauront d'autres choses demain. Et c'est aussi, c'est un voyage intérieur et extérieur. Et ça nous ramène aussi peut-être à la thématique sur laquelle je travaille depuis 15 ans, qui est très simple, c'est territoire réel, imaginaire, rêvé. Et dans le fond, cette maquette, elle nous fait rêver aussi. Hein, et on aimerait bien éventuellement continuer en se disant, mais ça va être quoi demain, l'évolution de ce littoral? Et peut-être faire travailler des scientifiques pour essayer de modéliser, comme ça, l'augmentation du niveau de la mer. Parce que c'est vrai que ça, c'est une thématique, ça me frappe ici, dont on parle très peu, alors qu'on est quand même concerné.
Oui, l'avenir et effectivement le réchauffement de la planète, l'élévation du niveau de la mer. Mais ce sont des sujets qu'on abordera plus tard. En tout cas, merci Marion Thibat d'être venue nous expliquer succinctement, parce que je vois qu'on n'en finirait jamais. Les choses ne sont que transitoires. Merci d'être venue nous expliquer ce que vous faites justement dans ce parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, élément important, vous l'avez souligné.
Merci à vous.
prochaine émission, à la deuxième de cette année 2007, nous y recevrons Christophe Cabrier, qui est président du GIP11, c'est-à-dire le groupe interreligieux pour la paix de l'Aude, où nous parlerons évidemment de sujets parfaitement différents.
Et de spiritualité, Marion faisait remarquer tout à l'heure, à savoir qu'on ne pourrait pas regarder un territoire sans effectivement
évoquer cette spiritualité. Nous l'évoquerons en même temps qu'une actualité qui est parfois assez brûlante et douloureuse.
Évidemment.
Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.